J'aimerais alors vous rappeler le cadre clinique que vous avez bien résumé, en tout cas dans le dossier. Il s'agit d'une femme jeune, elle était religieuse, mais en tout cas c'est une femme jeune dans ses 25 ans. Elle est née en 1934 et au début des années 60, elle commence à avoir un problème très commun, rien de rare. Elle a mal au dos. Et donc elle commence à consulter avant son médecin traitant et après lentement les hôpitaux et tout ça. Elle habite à Tortona. En tout cas au nord de l'Italie, ça vous explique pourquoi le partage avec l'autre évêque, l'évêque de Casale Monferrato. Et donc, finalement, il lui est posé le diagnostic d'une hernie discale. Et sa première intervention chirurgicale, c'est le 3 octobre 63. Mais il s'agit d'éliminer par voie extradurale une hernie discale. Elle sort de l'hôpital après quelques jours, elle n'est pas mal, mais en même temps, elle n'est pas vraiment bien. Et le cadre clinique devient encore plus grave. C'est pour ça que le 3 décembre de la même année 63, elle a une deuxième intervention, une hémilaminectomie, mais en plus aussi une arthrectomie, c'est-à-dire aussi l'articulation, une action chirurgicale sur l'os, sous la vertèbre est faite. Le niveau, c'est très bas, L5, S1, c'est à la frontière avec la région que nous appelons sacra, donc c'est très bas. Au dos, et ils ont fait aussi un contour des espaces intervertébraux jusqu'à S1 sans trouver des hernies, mais, et ça c'est intéressant pour la suite, un épaississement du tissu connectif péridural qui étrangle la racine de S1, c'est-à-dire qui étrangle la racine du nerf responsable du sciatique, donc de toute la tête et toute la termination nerveuse qui donnera finalement la paralysie incurable à celle du. La situation, effectivement, devient très grave parce qu'elle commence à avoir de la pression, elle commence à être alitée, obligatoirement alitée, au tout début en position supine, c'est-à-dire avec le ventre aux cieux, mais bientôt elle est obligée à être en position prône, c'est-à-dire avec le dos aux cieux et le ventre sous le matelas. Le 31 mars 64, vous voyez que le calvaire continue, c'est 5 mois après la dernière intervention. La patiente fut soumise à une troisième intervention chirurgicale de large laminectomie totale L4, L5, S1 avec exérèse du tissu cicatriciel et du tissu péridural gagnant de racine. C'est-à-dire, les premières deux interventions ont eu une réaction tissutale exagérée et s'est formée du matériel cicatricial, comme une large cicatrice, qui étrangle les nerfs. Et donc ça, c'est... Si vous voulez, la conséquence des interventions, la seule manière, par contre, dans les années 60, de traiter une hernie discale. Et donc, cette troisième intervention, il donne un résultat, c'est-à-dire qu'il se forme un méli-méningocèle. Le liquide qui est du cerveau entre dans toute l'épine dorsale de tous nous tous, c'est le liquide rachidienne, sort parce qu'il y avait évidemment un parti d'affaiblissement de la partie osseuse. Donc le tissu s'est élargi, fait comme une petite boule, et le liquide sort derrière, dans la peau de la peau du dos. Ça peut être quelquefois dans les prématurés, vous le notez, ou dans des maladies à la naissance. Et donc ça signifie que la situation très très compliquée par ces méningocèles doit être opérée à juillet de la même année 64 au centre hospitalier de Tortona. Et le 14 juillet, elle était soumise à la quatrième intervention chirurgicale d'une plastique faciale pour fermer le méningocèle. Ça sont les conditions médicales qui ont obligé la sœur à vivre alitée. Elle a que 30 ans, elle est jeune, elle avait envie de partir en mission, elle avait envie d'aller servir les enfants, mais elle est alitée, elle vit embrassée à son petit matelas et elle sait que lentement elle allait mourir par les infections qui peuvent être liées au méningocèle et tout ça. Donc elle demande à ses supérieurs de venir à l'eau. Et finalement, elle est donnée la permission qu'on le parait avec l'opinion contraire des chirurgiens orthopédistes qui l'a suivi, disant « ce voyage, c'est vraiment épouvantable, c'est difficile, c'est catastrophique ». Elle est partie en tout cas, et elle a donné beaucoup de témoignages à la télé, partout dans ces mois derniers. Donc elle a été mise avec le brancard, comme on a fait dans les trains blancs de l'eau, on met les brancards par la fenêtre à la gare. Donc elle est entrée par la fenêtre, elle pensait d'aller mourir, elle arrive à l'eau. Et c'est à l'eau d'où le 23 juillet, il a cet témoignage émouvant parce qu'effectivement, les médecins même autant, le médecin du pèlerinage, le directeur du pèlerinage, sont étonnés par le fait qu'elle parte. Elle parte, c'est le moment de la procession du très saint sacrement. Et dès que le saint sacrement passe à côté d'elle, celle Regina témoigne qu'elle sent quelque chose qu'elle ne peut pas décrire, elle ne sait pas décrire. Elle sent comme tout un changement à l'intérieur, elle se sent poussée à sortir de la, du bunker, de la montée du bunker, mais elle a peur. Elle a presque honte de dire à la dame ou aux dames bénévoles qui étaient avec elle, je pense d'être guérie. Donc c'est pour ça qu'elle fait retour à l'asile, c'est-à-dire à l'accueil des malades, et c'est là où finalement elle appelle le prêtre. Donc le prêtre intervient à ce moment, Monseigneur le Père Recteur, c'est le directeur du pèlerinage Ofter qui vient, et la sert très divinement, il demande, tout ça c'est dans les témoignages, écoutez, j'aimerais avoir votre bénédiction, Père, parce que je sens que je peux mobiliser mon pied. Et le Monseigneur, non évêque, si vous voulez, le prêtre qui est là, lui dit, écoutez, c'est Luigina, vous nous embêtez toujours avec vos demandes. Si vous voulez ma bénédiction, sautez du lit, mettez-vous en genoux, je vous la donne. Et alors, la religieuse, du moment que le directeur du pèlerinage a demandé, elle a levé ses couvertures et s'est mise en genoux. Et tout le monde était ému et bouleversé de ceux qui étaient les témoins. C'est Luigina vient donc au bureau, comme Monseigneur Brouet vous a expliqué, pour rendre son témoignage. C'est la première fois que je le présente en public. Mais ça, c'est l'original de la déclaration de ce Luigina qui a fait le 22 juillet, c'est-à-dire l'année suivante, le 65, le 66, à propos d'une guérison 65. Donc ça, c'est le dossier qui commence, le commencement de la partie au bureau. Et elle est venue au bureau, comme nous l'avons publié pour tous les membres de l'Association médicale internationale de l'eau sur notre numéro du bulletin de janvier de cette année. Elle est venue au bureau en juillet 66. Il y a une réunion du bureau ce jour-là, le 28 juillet. Et la décision était unanime. C'est quelque chose d'intéressant. Nous ouvrions un dossier. Donc le dossier est ouvert formellement en 66, l'année suivante. En 1984, il y a une deuxième ou troisième réunion du bureau. Et 64, ils ont demandé, 84, ils ont demandé à la SER d'avoir des images de l'après-guérison. On avait des vieilles radios de l'avant, c'est-à-dire du période de la maladie, mais on n'avait rien de l'après. Et justement, la traduction de l'eau du bureau, c'est la rigueur, donc il n'y avait pas des images. Mais la religieuse, Monseigneur Brouet vous a fait une petite notation sur les faits, la religieuse demande à sa congrégation, la congrégation dit, ne t'inquiétez pas, on ne laisse pas, il n'y avait pas d'intérêt, si vous voulez, à suivre le dossier. J'ai connu sur Luigina un pèlerinage avec l'OFTA, parce qu'elle vient régulièrement, le père recteur me le demandait, l'année 2009, ma première année à Lourdes, et les médecins du pèlerinage m'ont demandé à qu'est-ce qui a été le dossier. Donc là, on a ouvert ensemble, j'ai dit, écoutez, il y a la manque des images. Et donc, c'est pour ça que le 2010, ils ont fait retour à Lourdes d'un pèlerinage avec la serre, avec l'accord de la serre Luigina. Ils sont venus me montrer, ça c'est la première fois en public, ça c'est le centre hospitalier universitaire de Pavie, les images soit du scanner, soit de l'IRM, de la colonne vertébrale de ce Luigina. Ce sont des images vraiment étonnantes. Monseigneur, je les ai vues et revues avec des amis orthopédistes, neurochirurgiens et tout ça. Et ce que tous les médecins qui ont vu ces images m'ont dit, c'est la incohérence entre la colonne vertébrale catastrophée de cette femme et les conditions de santé excellentes de cette femme qui a repris à travailler après sa guérison à l'autre jusqu'à encore aujourd'hui à servir les enfants dans son couvent dans le Piémont. C'est en raison de ces images qu'on a convoqué à Lourdes le bureau, donc c'était le 2010, les membres présents, la tradition de Lourdes, tous les soignants présents à l'hôtel Jour font partie du bureau, on dit oui, d'accord, la décision a été collégiale. Et c'est l'année 2010 que j'ai pu présenter, là, la traduction de l'eau, que Mgr Brouet vous a rappelé au tout début, j'ai pu présenter aux confrères du CUI, Comité médical international de l'eau, le dossier sur Luigina. Un membre était choisi comme rapporteur, le docteur Balzaretti italien, pour mieux suivre le dossier italien. Le docteur Balzaretti, donc, a présenté son rapport à la réunion CUI de l'année dernière, à Paris, novembre, et la guérison de Sœur Luigina et la guérison de Madame Castelli ont été jugées les deux avec deux votes différents, secret et anonyme, est une guérison, le mode duquel, selon la tradition de Lourdes, reste inexpliqué à l'état actuel des connaissances scientifiques. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai publié la nouvelle sous le bulletin à l'intérieur. Ça rejoint presque 17 000 abonnés dans le monde entier. Mais l'évêque de Tabellou qui était présent à la réunion, votre prédécesseur, Monsieur Perrier, justement dans la tradition lourde, a écrit une lettre à son confrère, l'évêque du diocèse où la sœur habite, l'évêque de Casale-Monferrato.